France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La famille, une entreprise ? La famille, mais en quelle année ? Pour faire partie d'une famille, il faut naître, on s'en doute. Et ensuite, être éduqué. Les enfants sont habitués à recevoir des notes. Que leur apprend-on ? Malice ou soumission ? Qu'est-ce que l'enfant adulté ? Revalorisation du travail à la campagne, philosophie à 8 ans, les droits de l'enfant citoyen. Une romancière se posait beaucoup de questions sur l'éducation des enfants et répondait à celles de Jacques Pogam dans Parti pris le 24 février 1976 sur France Culture.
Bonjour, l'invité de Parti pris est aujourd'hui Christiane Rochefort, le thème « L'enfant et la liberté ». Christiane Rochefort, vous venez de publier chez Grasset un livre intitulé « Les enfants d'abord » et un livre qui n'a pas fini de provoquer des réactions violentes. Vous écrivez par exemple... La fonction des parents en termes d'entreprise est d'élaborer à partir du matériau brut enfant le modèle domestiqué conforme à la demande. Est-ce que vous pensez que beaucoup de parents vont se reconnaître dans cette définition ?
Il faut bien noter d'abord, c'est en termes d'entreprise. Et qu'est-ce que c'est l'entreprise ? J'appelle l'entreprise la façon dont est organisée la société actuellement. Bon, et c'est selon l'entreprise. Les parents devraient être ça. Je dis par la suite qu'ils ne le sont pas toujours, que ce ne sont pas des instruments parfaits, hein, et qu'on est obligé de les guider, de baliser la voie, de les tenir en surveillance, et qu'il est très difficile de s'écarter de cette voie. Je dis aussi qu'ils ne sont pas conscients de ça. Alors, naturellement, qu'ils ne se reconnaissent pas.
Mais l'éducation, quand on lit votre livre, l'éducation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est une façon de domestiquer les énergies des enfants.
Oui. Oui, c'est ce qui est contenu dans cette phrase. Et l'éducation n'est pas faite seulement par la famille, elle est faite par toute la société dans son ensemble. C'est une pression concentrique, globale. La famille, l'école, tout l'entourage, toute la rumeur qui est la chose qui éduque encore plus que la famille. À part ça, je ne parle pas forcément de l'éducation dans cette histoire. Ce que je fais surtout, c'est d'essayer d'analyser, de décrire la façon dont les choses se passent ici. C'est une description, c'est même pas une attaque. C'est une description qui n'est pas optimiste, forcément, puisque les choses ne sont pas...
C'est le moins qu'on puisse dire, hein, ce qu'on lit votre livre.
Mais c'est pas catastrophique non plus. J'essaye de vraiment indiquer quels sont les dangers, quelles sont les agressions de l'État contre les individus. C'est une pure description et une analyse, et ça convie à réfléchir et à voir où on en est, à voir où on est. Ça convie, si vous voulez, ça n'attaque pas les parents, ça les convie à réfléchir sur leur rôle.
Le premier signe que vous voyez, c'est la façon dont les enfants naissent aujourd'hui. Pour vous, c'est un symbole ?
Oui, c'est un symbole et c'est un fait, parce que les vrais symboles sont en même temps des faits. On s'est aperçu récemment, avisé récemment, c'est le Boyer surtout qui a travaillé là-dessus, que ce n'était pas aussi nécessaire de traiter les enfants à la naissance de cette manière brutale. Il a préconisé de la douceur, au fond, pas autre chose, c'est-à-dire de la douceur dans les lumières, de la douceur dans les sons, d'adoucir les lumières. On appelle ça accoucher dans le noir, c'est tout de même de la mauvaise foi, il faut bien le dire. Et cette résistance à cette proposition de douceur est quand même symptomatique. Il y a une énorme résistance.
Et à quoi l'attribuez-vous ?
Ah, oh là là, bien oui, justement. Alors, chaque fois qu'on soulève un coin dans cette histoire, il y a tout qui apparaît. Alors, l'accouchement se passe comme un rituel, en fait. J'ai dit que si des ethnologues tout à fait étrangers arrivaient chez nous et assistent à un accouchement à l'hôpital, ils le prendraient pour un rituel. un rituel de dépossession des femmes, un rituel de prise de possession des enfants. Ça ressemble vraiment à ça au niveau symbolique. Maintenant, c'est un fait, et c'est un fait de violence. Nous, moi, j'ai toujours cru que si j'avais reçu la fessée à ma naissance, comme tout le monde, c'était nécessaire, quoi, sinon j'aurais pas vécu. Et puis, quand j'ai entendu que ce n'était pas nécessaire, je me suis dit, oh mon Dieu, mais quoi, mais qu'est-ce qu'on m'a fait, mais pourquoi ? Je l'ai ressenti, je peux dire que je l'ai ressenti en moi-même, cette histoire-là. À partir du moment où ce n'est pas, où on sait que ce n'est pas nécessaire, on se pose des questions, mais pourquoi ne s'est-on pas posé la question plus tôt ? Pourquoi personne ne se pose la question à propos de ces brutalités ? Ça va de soi. De la même façon qu'il va de soi que les femmes accouchent couchées, alors que, il vient d'être plus ou moins révélé seulement maintenant que cette position était surtout commode pour les médecins, mais qu'en fait elle n'est pas commode pour l'accouchement lui-même, pour les femmes.
Mais dans tout cela, il reste quand même une image qui sauve un peu, du moins jusqu'à présent, qui sauvait un peu tous ces errements, c'était l'amour maternel, mais vous... Vous ne semblez pas y attacher une importance considérable à l'amour maternel.
Oh, si. À l'utilisation par la société de cet amour, j'attache une importance considérable. C'est là-dessus qu'est fondé le contrôle des enfants. C'est à travers ça qu'on le fait passer. Et alors moi, si je regarde l'amour maternel, je le regarde, hein. Si je regarde... Tout amour, d'ailleurs. J'ai toujours fait cette opération avec l'amour. J'essaye de voir ce qui, dans l'amour, n'est pas de l'amour. Il me semble que si on dit globalement amour, en y incluant absolument tout et n'importe quoi, on fait bien du tort à l'amour. Moi, je suis pour regarder de quoi ces choses-là sont faites, hein, et on verra après. Alors là, on verra vraiment l'amour, ce qu'il y a d'amour.
Alors de quoi est fait l'amour maternel ?
Ben c'est écrit, hein, ça j'ai essayé de le regarder. On le dit biologique. Bon, ben c'est une affirmation gratuite. Et en même temps, tout le monde est obligé d'aimer. Hein. Ça va de soi qu'on s'aime. Ça va de soi que ces deux personnes-là s'aiment.
Et... Sauf pour les intéresser, souvent.
Eh bien, il faudrait leur demander, voyez-vous. Il faudrait leur demander. Mais c'est extrêmement difficile de leur demander, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que personne n'ose mettre ça en question. Personne n'oserait dire. On se sentirait horriblement coupable de ne pas aimer ses enfants comme une chose de sang, comme une chose comme ça. On se sentirait horriblement coupable de ne pas aimer sa mère.
Vous
Et cette culpabilité qui frappe le nom amour empêche vraiment qu'on le connaisse. Moi, ce que je demande, c'est qu'on le connaisse, c'est qu'on sache ce qu'il est, qu'on n'appelle pas amour ce qui n'est pas de l'amour, qu'on appelle amour ce qui en est.
Chacun là-dedans est prisonnier des conventions et d'une forme de respectabilité, alors ?
D'un consensus établi une fois pour toutes. Moi, quelques femmes m'ont fait des confidences que, mon Dieu, quelle horreur, mais cet enfant-là, ne sentait rien. Hein ? Seulement, alors, ce sont des confidences. Ouais. Combien de gens pourraient faire cette confidence ? Je l'ignore. De toute façon, les choses sont arrangées d'une façon si pressante qu'on n'arrive même pas à ressentir ces véritables sentiments. Et alors du côté des enfants, c'est encore pire, parce que là, vraiment, un enfant se sent coupable s'il n'aime pas ses parents. Or, on entend tout de même des enfants dire ça. Et comme je l'ai dit, c'est assez difficile à connaître, parce que des enfants qui disent ça se cachent de le dire, bien sûr. Ils ne vont pas le dire en face, c'est pas possible, c'est très rare. Et... On le connaît en réalité, on le connaît à peu près que par la littérature. Vous voyez là, dans les livres, le nombre de gens, d'anciens enfants, qui disent que lorsqu'ils étaient petits, c'était l'hostilité, l'antagonisme avec leurs parents. Et un antagonisme mélangé, aussi mélangé d'une espèce de chose qui est quand même un attachement, qui est quand même... Il y a une telle confusion dans les sentiments qu'on n'arrive même pas à s'y reconnaître. Moi, personnellement, puisque je me réfère beaucoup à moi quand j'écris ce livre, à ce que je ressentais comme enfant, ou à ce que mes amis... enfant me racontait quand j'étais enfant, ou est-ce que mes amis d'aujourd'hui racontent, car nous racontent ou disent, parce que nous faisons des recherches tout de même entre nous là-dessus, des recherches vraiment sur du revécu d'enfance. Je me base là-dessus et sur la littérature. La littérature qui finalement arrive à être plus réelle que la sociologie. Lorsqu'on lit des interviews d'enfants, par exemple, ils ne disent pas la vérité, ils n'osent pas dire la vérité publiquement. Il faudrait essayer de savoir de quoi c'est fait. C'est ça mon point de vue.
Christiane Rochefort, à vous entendre, j'ai un peu l'impression que pour vous, les enfants, finalement, on ne les connaît pas.
Oui. Je le pense.
Ah, c'est bien triste, ça.
Non, ce serait pas triste si on savait qu'on ne les connaît pas.
Toujours la même chose.
Oui. Moi, je ne m'adresse qu'à la prise de conscience. On ne les connaît pas parce que, quand on les observe, en même temps, on les surveille et contrôle. Parce que simplement, on est des adultes, même si on est extrêmement gentil, libéral, même si on essaye d'avoir une relation d'égalité avec eux, c'est impossible de leur point de vue. On est tout de même le pouvoir.
Le simple regard est gênant. Le simple regard de l'adulte sur l'enfant.
Oui, il sait qu'il est contrôlé. Il sait qu'il peut être puni, récompensé, mesuré, jaugé, et que c'est la grande personne qui a le pouvoir et qui a le jugement.
Et ça, pour vous, de toute manière, cette impression-là est à rejeter.
Vous savez, il y a en physique une loi qui s'appelle la loi d'indétermination, selon laquelle l'observateur modifie l'observé. C'est une loi vachement importante qui n'est pas assez connue. Alors ça, même en physique, c'est-à-dire quand il s'agit soi-disant de matière inanimée, c'est comme ça. L'observateur modifie l'observé. Alors en sciences humaines, quand l'observateur est une personne, et l'observer aussi une personne, alors là, ça devient vraiment, la marge d'erreur devient phénoménale. Et lorsque une des personnes a plus de pouvoir que l'autre, lorsque l'observateur a en plus du pouvoir sur l'autre, alors là, c'est simple, le phénomène est inobservable. C'est une loi, c'est scientifique, c'est pas une affirmation farfelue. Un enfant qui passe en test, par exemple. Bon, eh bien, le testeur décide de son avenir. Le testeur est là, l'interroge, il y a des temps, hein, il y a des choses tout à fait angoissantes, et il décide de l'avenir de l'enfant. Bon. Comment voulez-vous qu'il le connaisse? C'est impossible. Il a en face de lui un être ou angoissé, ou refusant, ou réagissant à son pouvoir. Un être qui dépend de lui. Il ne peut pas l'observer. C'est impossible.
Donc l'enfant est conduit pour passer à singer l'adulte, c'est ça?
Toutes les recherches, même de connaissances directes, par exemple, par des textes écrits par les enfants, par des interviews, etc., montrent que les enfants s'efforcent vraiment de donner les réponses, les bonnes réponses, les réponses qu'on attend d'eux.
Qu'est-ce que c'est qu'une bonne réponse, par exemple?
Les réponses qu'on attend d'eux.
Si je pose une question à un enfant, je lui demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Qu'est-ce que c'est que la bonne réponse?
Eh bien, vous savez qu'à ces réponses, les garçons donnent des métiers de garçons et les filles donnent des métiers de filles. Hein? C'est quand même curieux. Elles disent ce qu'elles croient qu'elles peuvent faire, ce qui n'est pas mal. Les enfants sont habitués à recevoir des notes et des jugements. Bon, ils veulent une bonne note, ils ont peur.
Vous voulez dire qu'on leur apprend surtout la malice?
Ou la malice, ou la soumission, selon l'état selon l'état dans lequel ils sont. Les craques sont ceux qui répondent, ils savent quoi répondre, c'est pas ceux qui savent. C'est ceux qui savent quoi répondre, ceux qui ont pigé le coup.
Et au bout de tout cela, il y a ce que vous appelez, vous, l'enfant adulté. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, adulté? Qu'est-ce que c'est?
Ben, je dis qu'il n'y a pas une nature d'enfant qui durerait jusqu'à 18 ans, puis qui s'arrêterait tout d'un coup pour faire place à un adulte.
Tant mieux pour moi, ça.
Ouais. Ce sont là des distinctions purement sociales. Et je dis qu'on ne devient pas adulte, on devient adulté. Quand on choisit d'être adulte, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive dans une situation de pouvoir et où on oublie son enfant intérieur.
Mais on est tous, nous sommes à peu près tous des adultés
ou... Plus ou moins, vous savez. Adulté sur un point, pas adulté sur un autre, une confusion innommable. Je dis qu'un adulte, c'est un adulté, c'est un arrêt de développement. C'est le type qui, là, il se développe plus. Il a fini, il s'arrête.
Mais alors, les enfants sont des mutilés, d'une certaine manière. Ces adultes adultés sont des hommes tronqués. Nous vivons dans une société d'handicapés. Hein.
Nous vivons dans une société d'handicapés. Je ne suis certainement pas la seule à le dire. Vous savez qu'on vient au monde, enfin, c'est en génétique que c'est étudié, ça. On vient au monde avec des potentialités fantastiques. Des millions de possibilités, de potentialités. Ces potentialités, il faut qu'elles soient éveillées par le milieu. Le milieu, pas le milieu, gros milieu historique, la famille, l'école, non, toutes les petites choses de la vie. Alors, voyez-vous, par exemple, un bébé, C'est remarquable, la vie d'un bébé dans la civilisation occidentale. Il vit entre quatre murs. Il a regardé des murs. Alors comment s'est avisé que c'était quand même un peu pauvre? Après très longtemps, on s'est avisé que c'était quand même un peu pauvre à voir et qu'il fallait que les sens s'éveillent un petit peu. Alors on lui met des machins en couleur qui pendouillent au-dessus de son lit. Des machins en plastique en couleur, des choses mortes. Vous voyez, c'est pauvre comme milieu. Les bébés occidentaux ont autour d'eux le milieu le plus pauvre.
Mais est-ce que la pauvreté du milieu que l'on fait aux enfants n'est pas le reflet de la pauvreté du milieu dans lequel vivent les adultes?
Bien sûr, mais je dirais quand même une chambre, c'est faible. Puis une petite sortie quand on le sort dans sa petite voiture, pour le protéger. Et tout ça, c'est la protection, mais une protection curieusement comprise, une protection appauvrissante. Il est dans un landau qui a un toit, c'est-à-dire il est couché là-dedans. Il ne regarde qu'en l'air, mais en l'air, il y a le toit du landau. Il faut vraiment qu'il fasse pas trop de soleil, mais aussi pas de froid et pas mauvais temps, hein, pour qu'il ait le ciel au-dessus de ses yeux. Est-ce qu'on a pensé à se mettre à la place d'un bébé couché sur le dos? Il a vraiment peu de choses à voir.
Mais si on le cache ainsi, est-ce que ce serait parce que les adultes auraient peur des enfants? Dans ce qu'ils pourraient être si on les laissait en...
Oh, vous posez des questions qui contiennent des réponses.
Non, je vous...
Là, oui. Assurément...
Est-ce que la réponse est bonne?
Mais la réponse est bonne, à mon avis.
Tant mieux pour moi, donc.
Je pense qu'il y a une peur mutuelle. Les enfants ont peur, et ça, c'est une chose dont nous n'avons pas conscience, c'est que les enfants ont peur de nous. Une peur qui n'est pas avouée, qui est complètement cachée même à eux-mêmes, et qu'ils appellent culpabilité, qu'ils appellent peur de mal faire. Enfin, c'est la peur de déplaire, la peur de ne pas trouver grâce, parce qu'enfin, toute leur vie en dépend s'ils trouvent grâce ou pas. Et les adultes ont peur des enfants. Ils ont peur de leur richesse, ils ont peur de leur propre désir pour les enfants. Et toutes ces choses, de la vraie relation qu'il faut absolument cacher. Parce que sinon, où on va? Oh mon Dieu, le monde éclate.
Mais Christiane Rochefort, à quand la révolte de ces enfants qui ont peur?
Écoutez, pour commencer, il faut voir les choses comme elles sont. À mon avis, c'est le premier pas, c'est de prendre conscience de notre regard sur les enfants. Par exemple... On passe volontiers devant un enfant, quelque part, hein. On lui coupe la parole. On lui pose des questions, comme ça, quand on le connaît pas. On le tutoie, sans avoir établi qu'il pourrait y avoir une réciproque dans le tutoiement. C'est très fréquent qu'un adulte dise-tu à un gosse qui lui répond « vous ». Moi, ça m'arrive. Alors là, je suis très gênée. On lui pose des questions indiscrètes. On l'empêche de poser des questions en lui ou elle. On veut qu'il parle quand on veut qu'il parle, et qu'il parle pas et qu'il se taise quand on a besoin d'être tranquille. C'est-à-dire, on le considère comme une personne moindre. C'est bien ce que dit d'ailleurs mineur. Il a un statut. Ce statut le met sous la dépendance totale de tous les adultes. Bon, je trouve que nous n'avons pas conscience de nos attitudes mentales à l'égard des enfants. Même moi, j'ai pris conscience. Je me croyais assez... Enfin, gentille, quoi, assez considérante, disons, et j'ai toujours eu du respect pour les enfants. C'est là parce que je me souviens du manque de respect que j'ai souffert et du manque de considération. De considération, je veux dire, par exemple, j'ai quelque chose de grave à dire, on l'écouterait, par exemple. Non, bon, c'est pas ça. Alors, j'ai moi-même, en écrivant ce livre, pris conscience d'un manque de considération qui me restait pour les enfants. Et pourtant, je faisais de mon mieux. J'essayais de comprendre, j'essayais de comprendre. Eh bien, je n'étais pas encore.
La question de notre invité d'hier, René Dumont.
Je voudrais que Christiane Rochefort donne son avis sur l'éventualité d'une introduction de travail manuel, tant à l'école primaire que dans l'enseignement secondaire et dans l'université, de façon à détacher de l'esprit de nos enfants ce mépris des travaux manuels qui est vraiment inséré en eux par le système d'éducation académique, scolastique, qui prévaut actuellement en France.
Vous avez l'air surprise, Christiane Rochefort, par une question comme celle-là.
Oui, je pensais que René Dumont allait me parler du vote à 12 ans, par exemple, puisqu'il l'a demandé, et moi je parle d'un vote sur demande. Bon, alors je suis un peu... je me trouve dans un domaine nouveau. Bon. Je dirais pas seulement le travail manuel, mais la campagne, le travail agricole, par exemple. J'irais encore plus loin là-dessus. Le travail manuel, c'est quand même aussi l'industrie, hein. Je dirais le travail à la campagne, par exemple, et la revalorisation du travail à la campagne, parce que notre monde souffre D'un parmi les points dont il souffre, un point extrêmement important, c'est la dévalorisation de l'agriculture par rapport à l'industrie. Alors donc j'irai, moi, à dire à la campagne et des travaux selon la force des gens.
Pour les enfants?
Ouais, pour les adultes aussi d'ailleurs, ça ne nous ferait pas de mal de faire du recyclage à cet égard-là.
Mais là, je ne dis pas que ça nous... associez enfants et adultes, là, oui.
Ben, je vous ai dit que je ne faisais pas une différence de nature. Dans le cas de l'adulte, ce serait du recyclage ou du retour aux sources. Dans le cas des enfants, d'ailleurs, premièrement, je trouve que nous sommes là tous à décider si les enfants vont ceci, vont cela, avoir du travail manuel, de la gymnastique, du sport ou bien de la philosophie à 8 ans. Et puis, si on leur demandait leur avis.
Si je comprends bien, ce que vous réclamez, c'est une déclaration de l'enfant citoyen, quoi. Des droits de l'enfant citoyen.
Je le réclame pas. Je fais cette proposition, si vous voulez, de la majorité sur demande. C'est une proposition, d'ailleurs, que j'ai entendue. Les propositions que je fais, c'est des choses que j'ai plus ou moins entendues sortant de la bouche des enfants, que je répète là. Les petits dialogues qui sont dans le livre, là, ça vient de paroles d'enfants.
Et qu'est-ce que ça veut dire, la majorité sur demande?
La majorité sur demande, ça veut dire que si vous avez 21 ans, ou 18 ans et un jour, et que vous ne voulez pas devenir majeur, vous n'êtes pas obligé de devenir majeur. Mais si vous avez 12 ans et que vous considérez que vous pouvez assumer votre propre existence, eh ben vous allez demander votre majorité. Mais c'est une proposition qui répercute quelque chose qui vient des enfants, d'une part.
Ils l'ont demandé,
et d'autre
ça,
part, mais
les
oui,
enfants que vous
des
voyez.
Choses comme ça, oui. Le vote sur demande.
Ça va étonner beaucoup de gens, ça.
Ah oui, mais voilà, je vous dis, ils ne connaissent pas les enfants. Et moi non plus, d'ailleurs. Mais enfin, ça arrive que j'entends des trucs, par hasard, quand même. J'ai l'oreille qui traîne. Et c'est une proposition qui n'est pas destinée à être appliquée, parce que je ne me crois aucunement le pouvoir de faire appliquer quoi que ce soit dans le monde tel qu'il est. C'est donc un ballon d'essai, une chose comme ça qui est lancée, et qui a pour but, dans mon esprit, de mettre les gens en présence d'un truc qui leur paraît paradoxal, de façon à ce que ça les casse un peu les automatismes, déstructure les automatismes.
Vous avez un côté Ivan Illich, un peu, là.
Oh, un côté Ivan Illich, je ne sais pas, je ne saurais me comparer à Ivan Illich. J'ai remarqué que simplement, on est branché sur les mêmes trucs tout le temps. C'est comme ça. Alors, je ne pense pas que ce soit par hasard non plus. Si on est sensitif au monde, on arrive un peu dans les mêmes voies. Je sais que je me suis souvent rencontrée avec les bouquins d'Illich. À peu près branché pareil.
Mais dans tout cela, pour que ça change, enfin dans le sens où vous l'entendez, est-ce que ce n'est pas le mariage que vous remettez en cause, foncièrement?
Oh, écoutez, le mariage, il est remis en cause depuis bien longtemps.
Mais il y a des gens heureux dans le mariage.
Le divorce a été libéralisé, si j'ose dire, de façon à sauver le mariage qui va pas très fort, faut bien dire. Ce qu'on appelle l'union libre ou en police le concubinage, c'est chouette. C'est toléré parce que sinon ça s'en va en couille. Alors il faut bien faire des espèces de concessions par-ci par-là. La famille patriarcale a été détruite par l'industrie. C'est une chose connue, reconnue par tous les sociologues ou sociopolitiques. Alors, on s'efforce de la maintenir, parce que quand même, elle reste le lieu où, si possible, l'idéologie peut être transmise. Bon, mais elle s'en va, la famille. On a du mal à la maintenir.
Et pour vous, c'est l'enfant qui devrait en profiter?
De quoi?
De cet affaiblissement de la famille.
En profiter, je ne sais pas, parce que à mesure que la famille s'affaiblit certainement et son pouvoir lui a été énormément retiré, mais par contre le contrôle de l'État devient de plus en plus direct et de plus en plus pesant à travers ses institutions.
Parti pris, Christiane Rochefort, je vous rappelle le titre de ce livre qui est un véritable brûlot, mais Parti pris, c'est une émission qui est faite pour recevoir des gens qui écrivent des brûlots. Les enfants d'abord chez Grasset. Demain, le thème sera le cancer du sein, une maladie bourgeoise avec un point d'interrogation. Notre invité sera une femme, le docteur Claude Bourry-Ehler. Christiane Rochefort, une question rapidement pour Claude Bourry-Ehler sur ce thème.
Bon, alors voilà. Il existe une thèse selon laquelle le cancer se développe à la façon d'une carence en vitamine B17. Carence absolument moderne, la vitamine B17 a disparu de notre alimentation. La vitamine B17 est contenue dans les noyaux de fruits. Je voudrais savoir pourquoi on n'entend pas parler de recherche à ce sujet.
Je vous remercie. Merci d'être avec nous et à demain.
Rendez-vous était pris pour l'émission du lendemain et peut-être réponse donnée au sujet des fameuses vitamines 17. Cette émission de Jacques Pogam a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 février 1976. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. Oh, oh yeah. You may say I'm a dreamer, the only one. I hope someday you join us and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people.